Méditation sur le livre d'Esther. Introduction. Les événements dont le livre d'Esther nous entretient s'intercalent entre le sixième et le septième chapitre d'Esdras, c'est-à-dire entre le règne de Darius, fils d'Hystaspe, et celui d'Artaxerxès, surnommé Longuemain. La lacune qui sépare ces deux règnes est comblée par le règne d'Assuérus, autrement dit Xerxès, 485 à 465 avant Jésus-Christ, fils de Darius et père d'Artaxerxès. C'est donc sous Assuérus, Xerxès, que se passent les faits contenus dans ce récit inspiré. Chaque écolier connaît la puissance, les richesses de Xerxès, le rôle joué par lui dans sa lutte avec la Grèce au cours des guerres médiques, et comment, la sixième année de son règne, vaincu à Salamine par la flotte de ses adversaires, il s'enfuit et retourna dans son pays. Mais il est utile de rappeler que, pour comprendre la parole, même ses connaissances élémentaires ne sont pas nécessaires. Il nous suffit d'un passage de Daniel, chapitre 10, verset 20 au chapitre 11, verset 2, pour nous renseigner sur ce que nous devons en savoir. Il est, par contre, important de retenir ceci, que des événements qui remplissent de leur bruit l'histoire du monde compte à peine dans le livre inspiré. Dieu ne les mentionne que lorsqu'ils interviennent de manière ou d'une autre dans l'histoire de son peuple, ou qu'ils préfigurent des événements prophétiques, des contestations entre peuples, dont Israël sera l'objet. Daniel 11. Il arrive même que la parole ne nous rapporte le choc puissant des nations que pour nous faire assister à la délivrance d'un seul de ses bien-aimés. Genèse 14. Cette vérité est pour nous d'une grande importance. Les conflits entre les nations de nos jours nous préoccupent souvent à un si haut degré que notre âme en perd la communion avec le Seigneur. Prenons la parole pour mesurer leur valeur. Pesons les faits à la balance du sanctuaire, comme ils nous sembleront petits en face des conseils éternels de notre Dieu. Les plus grands bouleversements des plus grands empires, qui semblent ébranler le monde sur ses bases, ne pèsent pas plus qu'un fétu dans les balances de Dieu, à moins que son peuple ne soit en cause, que ce soit en jugement sur lui ou en vengeance sur ses adversaires. Deutéronome 32, verset 8. On en voit un exemple dans le Nouveau Testament. La tâche prodigieuse du recensement de toute la terre habitée par le plus grand des Césars n'a d'autre résultat que d'amener la naissance d'un petit enfant à Bethléem. Et, à la fin des temps, les luttes gigantesques des plus grands capitaines et de leurs armées innombrables disparaissent comme un souffle à l'apparition d'un seul homme. Dans l'Ancien Testament, le bouleversement du monde par l'Assyrien et toutes ses victoires n'ont d'importance qu'en tant qu'ils sont la verge de Dieu contre Israël infidèle. La victoire de Babylone sur la Syrie, qu'en tant qu'elle accomplit les mêmes desseins de Dieu à l'égard de Juda. Le livre d'Esther confirme ce que nous venons de présenter. Les guerres médiques qui ébranlèrent pendant tant d'années le monde d'alors y sont tout simplement supprimées. Il n'est pas plus question dans ce livre de la victoire des Grecs, Javan, que de la défaite des Perses. De tels événements ont préparé de loin la ruine de la Perse, second empire universel, qui n'a pas mieux administré ce que Dieu lui avait confié que ne l'avait fait Babylone, le premier empire, mais il ne concerne pas le peuple de Dieu. Un trait très particulier du livre d'Esther n'a échappé à personne. Le nom de Dieu en est absent. La raison de cette omission est incompréhensible pour les Juifs, car un endurcissement partiel est venu sur eux, et ils ne comprennent pas la pensée de Dieu dans leurs propres écritures. Nous verrons que cette suppression est la condamnation absolue de ce peuple, et c'est précisément ce qu'il ne veut pas reconnaître. Bien que le livre d'Esther ait encore aujourd'hui, pour les Juifs, une importance capitale parmi les livres saints, et continue à être lu solennellement lors de la fête des Purim, le sentiment des auditeurs, pendant cette lecture, se manifeste par des imprécations contre Haman, sa femme et ses fils, mais n'a nullement le caractère d'un jugement d'eux-mêmes. Ils comprennent si peu l'omission du nom de Dieu que la version grecque des Septante, faite par des Juifs alexandrins, semble avoir eu autrefois pour but de remédier à ce qu'ils considéraient comme une lacune par de nombreuses additions apocryphes où le nom de Dieu est très souvent mentionné. Pour expliquer cette omission, si remarquable, jetons un premier regard sur les circonstances où se trouvaient les Juifs dans le livre d'Esther. Lors de l'édit de Cyrus, à la fin des 70 années de captivité, un nombre considérable de Juifs, voyant dans cet édit l'accomplissement de la parole de Dieu, rentra dans son pays sous la conduite de Zorobabel. Esdras en ramena d'autres plus tard. Cette émigration comportait 42 360 personnes. Sans doute, à plus d'une reprise, des individus remontèrent à Jérusalem, de Babylone ou d'autres lieux de l'Empire, pour adorer ou pour apporter des présents. Voyez par exemple Zacharie 6, versets 9 et 10. Mais d'une manière générale, soit indifférence pour Jérusalem et le Temple, soit amour de ses aises, soit intérêt, ou pour toute autre cause, une grande partie de Juda et de Benjamin resta dans les provinces persanes où elle s'était établie. Les premiers répondaient aux pensées de Dieu en remontant à Jérusalem, les autres ne semblaient pas apprécier l'humiliation de leurs conditions serviles et restaient où ils étaient. Il va sans dire que nous exceptons de cette seconde catégorie des personnages tels que Daniel, Esdras, Néhémie, Mardochée, que leurs fonctions officielles tenaient sous la dépendance immédiate du monarque persan. Ceux qui étaient remontés sans être reconnus de Dieu comme nation, car la sentence qui les avait déclarés Lo-Ami n'était pas révoquée, se trouvèrent dans des relations individuelles et même collectives avec l'Éternel, malgré l'absence complète de relations nationales avec lui, et il se plaisait à entretenir ces relations avec eux en leur faisant connaître ses pensées par des conducteurs, des docteurs et des prophètes, afin de soutenir leur foi et de ranimer leur courage. Le but de Dieu était de les préparer à recevoir leur Messie, et, s'ils le recevaient, de les rétablir comme nation et de les appeler de nouveau « mon peuple ». Nous savons comment tous ces desseins de grâce envers Israël furent interrompus par le rejet du Messie. Comment, à la suite de ce rejet, l'Église fut formée par le Saint-Esprit. Comment, enfin, la restauration d'Israël fut renvoyée au temps futur, décrit par les prophètes. Malgré tout, les débuts de la restauration de Juda et de Benjamin furent particulièrement bénis, comme en témoignent Esdras, Néhémie et les prophètes Agé, Zacharie et Malachie. L'état du peuple qui avait préféré rester dans le pays de sa captivité était par contre des plus fâcheux. S'ils jouissaient d'une prospérité extérieure, ils étaient non seulement Lo-Ami, comme leurs frères restaurés en Palestine, mais ils étaient privés de tout rapport quelconque avec Dieu. Dieu leur était caché. Il avait détourné sa face. Un voile uniforme de tristesse et d'abandon pesait sur ce peuple. On ne trouvait chez lui ni énergie de foi, puisqu'elle ne s'était pas montrée lors de l'édit de Cyrus, ni même jouissance de relations individuelles avec Dieu. Le soleil d'Israël s'était couché. Ils n'avaient plus même de lampe pour guider leurs pas dans la nuit qui les avait envahis. Tandis que d'autres étaient remontés vers la lumière, ou plutôt s'étaient rapprochés d'elle en retournant à Jérusalem, ceux-ci restaient assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Pas un rayon de la face de Dieu ne venait la percer à cette heure. Cela explique comment, religieusement, dans le livre d'Esther, tout est plongé dans une ombre mystérieuse. La vie journalière continue, mais le ressort de cette vie est détendu, plus que cela, détruit. Mais que voit-on en outre chez le peuple? Les Écritures, qui jouent un si grand rôle dans les livres d'Esdras et de Néhémie, sont complètement absentes. Aucune des fêtes instituées par la loi de Moïse et dont la célébration est habituelle aux résidus remontés à Jérusalem, aucune fête, disons-nous, sinon les Purim, solennité entièrement nouvelle, quand la délivrance du peuple eut lieu. Les sacrifices, la sacrificature, le service, tout a disparu, ou du moins a entièrement cessé d'être mentionné, car nous savons qu'un grand nombre de sacrificateurs et de lévites n'était pas remonté à Jérusalem lors de l'édit de Cyrus ou en d'autres occasions. Si les communications de Dieu avec le peuple manquent complètement, celles du peuple avec Dieu sont tout aussi absentes. Pas une fois la prière n'est mentionnée. Au plus fort de leur détresse, ils prennent le sac et la cendre. Le jeûne est ordonné, mais jamais une prière ou une supplication. Je ne dis pas, notez-le bien, qu'il ne peut y avoir ces choses chez les fidèles. Mais il n'en est jamais question. Tout ce que l'on voit chez eux, c'est la sollicitude pour la nation et, à l'approche du coup final, la détresse et une suprême angoisse avec une faible pensée, suggérée par la foi, que le secours pourra venir d'autre part. Leur position donc se résume à ceci : ciel fermé, aucune relation nationale ou individuelle avec Dieu, bien différent en ceci du peuple sous Esdras ou Néhémie. Ils sont laissés dans l'abandon, dans la servitude, courbés sous le joug pesant des nations, extérieurement sans Dieu et sans autre chose qu'une faible espérance. Ils vont, ils viennent, ils vivent, ils trafiquent, méprisés, haïs du très grand nombre, se faisant petits pour échapper à une attention hostile, malheureux, mais habitués au joug, gardant au milieu de leurs abjections le souvenir de leur grandeur passée, n'étant pas soutenus, comme ceux qui sont remontés à Jérusalem, par leur affection pour l'autel, pour le temple, pour les murailles de Jérusalem, ayant sans doute parmi eux une partie du sacerdoce, comme on le voit dans le livre d'Esdras, mais sans objet pour s'exercer. Leur malheur n'a pas même le soulagement de s'exprimer au dehors, sauf quand leur terrible sort est décrété. Si j'avais un mot pour exprimer cet état, je l'appellerais l'indifférence des malheureux. Voyez-les sans patrie, sans capitale, n'ayant pour cité que Suse, la capitale des gentils, sans prince, sans sacrificateur avec les phodes, les urim et les thummim, par lesquels ils pourraient consulter l'Éternel. Le résidu de Palestine en avait du moins l'espérance. Esdras 2, verset 63. Mais aussi sans idole et sans teraphim. Osée 3, verset 4. C'est le désert moral. Je parle de l'impression que ce livre a pour but de produire, car le second livre des psaumes, qui nous place prophétiquement au milieu des mêmes circonstances, nous montre qu'à défaut de l'Éternel, leur foi s'adresse à Dieu. Cette absence complète de relation avec Dieu attire sur ce résidu de la captivité le mépris du monde auquel il est asservi. La parole caractéristique du deuxième livre des psaumes, où nous voyons le résidu de Juda chassé de Jérusalem et demeurant au milieu des nations, cette parole « Où est ton Dieu ?» s'applique d'une manière toute particulière aux circonstances du livre d'Esther. On me disait tout le jour « Où est ton Dieu ?» Mes adversaires m'outragent comme un brisement dans mes os quand ils me disent tout le jour « Où est ton Dieu ?» dit l'âme abattue du résidu qui marche en deuil à cause de l'oppression de l'ennemi. Psaume 42. Et de même dans le prophète Joël, « Ils sont le proverbe des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples « Où est leur Dieu ?» Joël 2, verset 17. Mais cet abandon même, ce vide produit autour d'eux, joint au danger de mort qui les menace d'un moment à l'autre, les fait crier à ce Dieu qui leur cache sa face. Beaucoup disent « Qui nous fera voir du bien ? Lève sur nous la lumière de ta face, ô Éternel !» Note 1. Ce fait seul nous indique déjà, et nous allons y revenir, que le livre d'Esther est un livre typique. Nous en serons toujours plus convaincus en étudiant le caractère des personnages qui y sont dépeints. Assuérus, Vasti, Esther, Aman, Mardochée. Cela est d'autant plus remarquable que les livres d'Esdras et de Néhémie, quoique remplis d'instructions pour le temps présent et pour tous les temps, n'ont pas ce caractère typique. C'est pourquoi aussi le livre d'Esther n'aurait pu être joint au livre d'Esdras, dans lequel, historiquement, il devrait s'intercaler. Sans parler du fait que, traitant de la dispersion des Juifs parmi les nations, il transporte le résidu sur un tout autre terrain. Fin de la note. Ainsi, Dieu est caché, et si Dieu l'est, tout le reste l'est aussi. La lumière du monde a disparu. La nuit est venue, en laquelle personne ne peut travailler. Cette lumière peut luire au milieu des ruines de Jérusalem, d'une manière avare, pour ainsi dire. Mais elle luit là où la conscience est réveillée, là où des âmes comme celle d'Esdras confessent la culpe du peuple, s'en repentent et s'en humilient. Ici, rien de semblable. Le monde peut resplendir de tout son éclat terrestre, mais Israël est assis dans les ténèbres. La grande lumière dont parle le prophète ne reluira qu'à l'apparition première du petit enfant de Bethléem. Au jour d'Esther, le peuple asservi se cache. Mardochée, serviteur du roi tout-puissant, ne révèle sa race que forcée à expliquer son attitude vis-à-vis d'Aman. Esther, sur l'ordre de Mardochée, cache son origine et n'ose la déclarer, ce qui serait sa perte. Elle est un peu comme les 7000 hommes inconnus au temps de l'apostasie d'Israël et du culte infâme de Baal. Seulement, dans le livre d'Esther, le peuple n'est pas caché devant une idolâtrie triomphante. Les souverains perses avaient en horreur les faux dieux et pratiquaient la religion de Zoroastre qui répudiait entièrement les idoles. Fausse religion sans doute, mais non grossièrement idolâtre comme celle des Chaldéens. Cette religion reconnaissait un dieu suprême, Ormuzd, dieu du bien avec ses bons génies, et un second dieu, le dieu du mal, Ahriman, éternel comme le premier, en lutte à puissance égale avec lui, cherchant toujours, avec ses mauvais génies, à séduire les hommes, mais dont la puissance devait avoir une fin et laisser le triomphe au dieu du bien. Cet Ahriman est le diable qui a réussi à séduire les hommes en leur apportant des fruits à manger et en les privant par là des avantages dont ils jouissaient. On voit dans tout cela, avec des erreurs grossières quant à la nature de Dieu, un écho altéré des traditions orales primitives, Dieu nous en ayant donné la réalité originelle dans sa parole. Assuérus n'avait guère que ce trait commun, sa religion, avec Cyrus, Darius son père et Artaxerxès son fils. Au milieu de cette scène, dans ce froid brouillard qui enveloppe les captifs, et c'est le fait capital du livre d'Esther, une providence cachée veille sur eux. Tout ce récit en est la preuve, et nous aurons ample occasion de le faire remarquer quand nous en aborderons les détails. C'est que Dieu est fidèle et que, s'il est obligé de cacher sa face, il ne peut se renier lui-même. Ses promesses sont sans repentance, et même quand il les passe entièrement sous silence, il s'en souvient parfaitement. Il ne peut déclarer ce caractère aussi longtemps que le peuple porte le poids de son jugement gouvernemental, dont la sentence est en voie d'exécution. S'il agit autrement vis-à-vis du peuple remonté à Jérusalem, c'est en vue de la venue de Christ au milieu d'eux, comme les trois derniers prophètes en témoignent. Ici, dans le livre d'Esther, rien de semblable. Mais dans le silence, Dieu reste le même, et Dieu est amour. Il n'est pas seulement le Dieu saint, il reste ce qu'il a toujours été, un Dieu dont les entrailles sont émues de compassion envers ce peuple coupable. De là les soins incessants de sa providence. Nous pouvons considérer la providence de Dieu sous deux aspects. Sous le premier aspect, les hommes ont journellement devant les yeux le spectacle public, la manifestation indiscutable de cette providence, comme dit l'apôtre. Dieu ne s'est pas laissé sans témoignage, en faisant du bien, en vous donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, remplissant vos cœurs de nourriture et de joie. Acte 14, verset 17. Le second aspect est celui d'une providence cachée dans ses voies et dans son but, en sorte que les hommes ne peuvent la voir que par son résultat final. C'est ainsi qu'un Moïse, et de tels exemples sont fréquents, sauvé des eaux par des voies providentielles, introduit de la même manière à la cour du Pharaon, devient le libérateur de son peuple. Nous rencontrons à chaque instant, dans le livre d'Esther, ce dernier caractère de la providence. En restant cachée, elle dirige les événements et la foi seule la sait à l'œuvre et compte sur elle. C'est pourquoi aussi il faut la foi pour comprendre ce livre. Nous y trouvons, en résumé, la providence secrète agissant au milieu des plus terribles dangers qui puissent assaillir le peuple sous la colère gouvernementale de Dieu, pour lui donner du repos par la vengeance sur ses ennemis et pour introduire le règne de paix. Il est encore un caractère important du livre d'Esther sur lequel nous devons insister. Un des traits les plus merveilleux de l'Ancien Testament, et nous comprenons ici non seulement les écrits prophétiques, mais la loi, les écrits historiques et, en un mot, tous les autres écrits, c'est ou bien de présenter les principes moraux qui sont de tous les temps et dépassent entièrement la période dans laquelle ils ont été composés, ou bien aussi de préfigurer des événements à venir et des personnages futurs. Le fait dont nous parlons peut être plus ou moins évident selon les divers écrits, mais il est constant. Même quand Dieu se cache, comme dans le livre d'Esther, On sent qu'il choisit les acteurs et l'on distingue derrière la scène l'ouvrier souverain, façonnant mystérieusement le type des événements et des personnages à venir. Pour ceux qui étudient la parole avec prière, ce fait que nous trouvons des types, même dans un livre comme celui d'Esther, est, comme nous le verrons, d'une haute importance. Quand nous considérons ce récit, il donne à notre esprit une impression familière. Tel événement, tel personnage, porte la pensée vers des choses futures souvent méditées. Les faits s'enchaînent, les personnes se présentent ou s'associent d'une manière caractéristique. Telle allusion, tel nom indifférent au lecteur superficiel, prend tout à coup une valeur inattendue et s'éclaire d'une lumière soudaine. Et ce n'est pas un des moindres attraits du livre divin, de nous faire découvrir une pensée, courant comme une eau souterraine et silencieuse, inconnue du vulgaire, qui foule le sol sans se douter de sa présence, jusqu'au moment où, l'Esprit de Dieu lui donnant une issue, elle jaillit tout à coup, comme la source artésienne, aux yeux de ceux qui en contestaient l'évidence. Il en est ainsi du livre d'Esther. En apparence, rien qui prête moins à l'édification que cette histoire, quand on s'en tient à la surface. À cause de cela, plusieurs y ont intercalé des pensées, très utiles en d'autres occasions, mais qu'elles ne comportent pas. D'autres seraient tentés de lui préférer les livres d'Esdras et de Néhémie, si pleins de principes édifiants, appliqués à nos circonstances actuelles, mais ne présentant pas de type prophétique, parce que ces derniers sont contenus dans les prophètes contemporains, Agé, Zacharie et Malachie. Mais, je le répète, lorsque nous percevons le murmure du courant souterrain, que de mystères ne découvrons-nous pas ? La puissance divine concentrée en une personne. L'homme libérateur, élevé à la royauté et couronné. L'ennemi juré de celui qui représente le peuple, jugé et condamné. L'épouse gentile, répudiée. L'épouse juive, sortie de sa captivité et devenant la femme du grand roi. Le résidu, passant à travers une grande tribulation, jusqu'à l'intervention du libérateur. La paix et la joie, succédant à cette délivrance. Chose étonnante, l'opposition des hommes contre Christ s'attaque très particulièrement à ce livre, en apparence si conforme aux principes qui régissent le monde. C'est que ceux qui le combattent y sentent vaguement l'existence d'un secret qu'ils ne peuvent ni voir ni connaître, et que cependant ils haïssent. Des circonstances spéciales expliquent pourquoi ces choses sont présentées d'une manière si secrète et avec des types en apparence si incomplets. Pourquoi ces types peuvent rester ignorés, même du lecteur croyant, même sans intelligence spirituelle. Le peuple, comme nous l'avons déjà dit, n'existe plus. Tout lien qu'il attachait à Dieu est brisé. Le maître de la moisson dort. Quand nous assistons ici à la grande tribulation, à la détresse de Jacob, le caractère de ceux qui la traversent est bien différent de ce que nous rencontrons d'habitude dans les psaumes et dans les prophètes. Nous n'avons pas, dans le livre d'Esther, le spectacle d'un résidu repentant et intègre, reconnaissant qu'il a mérité son châtiment, et criant à Dieu des lieux profonds avec la conscience qu'il n'échappera pas, si Dieu prend garde à ses iniquités. Ici, au contraire, tout lien avec Dieu étant rompu, le peuple, qui n'est plus bien-aimé, n'entrevoit aucune possibilité de délivrance. Un seul homme, Mardochée, qui va en être l'instrument, sait qu'elle viendra. Autre que les sentiments exprimés dans le livre d'Esther sont ceux du résidu remonté à Jérusalem sous Zorobabel et Esdras. Tout en étant l'eau amie, il a conscience de ses rapports avec l'Éternel. Aussi, dans le livre d'Esther, la détresse est-elle plus grande et plus poignante, quoique ce soit proprement le résidu demeurant à Jérusalem qui, dans les temps prophétiques, sera mis à mort ou subira le martyre. Ici, disons-nous, la détresse est plus angoissante, fait pousser des cris grands et amers, et cependant, en fin de compte, pas un cheveu de leur tête ne tombe dans le pays étranger. Leur condition est celle de la femme poursuivie par le dragon en Apocalypse 12, verset 16. Tandis que celle du résidu resté en Judée et à Jérusalem nous est indiquée au verset 17 de ce même chapitre. Dans ce dernier cas, nous rencontrons une foi active, un profond sentiment du péché, la repentance, L'espérance qui s'exprime dans les psaumes par les mots « jusques à quand ?» L'attente de l'apparition du Messie. Dans le premier cas, l'angoisse terrible d'une destruction qui semble prochaine et inévitable est encore aggravée par le sentiment qu'ils ont de faire partie de Judas et de Benjamin. Et, devant leur perte imminente, ils n'ont aucune certitude, mais cependant, malgré tout, une lueur d'espoir. Peut-être, qui sait, dit Mardochée. Note 1. Pour la grande tribulation, consultez Jérémie 30, versets 4 à 11, Daniel 12, verset 1, Matthieu 24, versets 21 et 22. Historiquement, le résidu resté en Perse, dans le livre d'Esther, appartient aussi bien à Judas que ceux de ses membres qui sont rentrés en Palestine. Il en sera de même dans les temps prophétiques de la fin. Les uns resteront à Jérusalem, les autres fuiront parmi les nations. Matthieu 24, versets 15 à 19. La parole ne nous présente donc pas ici deux résidus de Judas, mais le résidu de Judas dans deux situations différentes. L'une correspondant au degré de foi et d'obéissance que le peuple avait montré pour retourner dans son héritage et rebâtir le temple, l'autre à son indifférence et à son infidélité. Seulement, Dieu se sert des circonstances du peuple resté en Perse pour nous donner, dans le livre d'Esther, une idée de l'extrême détresse future d'Israël. Le vaisseau désemparé a perdu son gouvernail, sa boussole, ses mâts et ses voiles. Il est ballotté çà et là dans la nuit, poussé vers les récifs qui, en un instant, vont le briser et l'engloutir. Point d'espoir, point de secours. Et pendant ce temps, une main mystérieuse prépare la délivrance par un événement qui abat les flots en courroux et conduit le navire au port qu'il désirait. Et ce port, c'est la grâce qui introduit le peuple en paix dans la joie et la gloire du royaume. Ainsi, toute l'histoire prophétique d'Israël est résumée, en type, dans ces quelques pages du livre d'Esther. La nation rejetée et asservie, l'épouse juive, esclave d'abord, puis reçue en grâce et reine des nations, la grande tribulation, pendant laquelle aucun cheveu de leur tête ne tombe dans le pays étranger, le jugement atteignant leurs adversaires, le règne de paix introduit. Le livre d'Esther est donc l'histoire de la dispersion future de Juda parmi les nations, et, dans un sens, nous pourrions l'appliquer à la dispersion qui a suivi la mort de Christ jusqu'à nos jours. Mais ce récit, comme nous l'avons dit, va beaucoup plus loin que l'époque actuelle. Il aborde en type l'histoire du résidu de Juda, dispersé dans un jour futur parmi les nations, tandis qu'une partie d'entre eux continuera son témoignage à Jérusalem. Tous seront profondément éprouvés dans leur conscience, mais la parole ne mentionne pas ce travail moral dans le livre d'Esther, afin de concentrer notre attention sur les rapports interrompus entre le peuple et Dieu, sur la profondeur de leur détresse et sur la grandeur de la grâce qui opère leur délivrance.